Mais en première partie.
On parle à Benaki.
Ah. Ben, en tout cas, on va parler à un professeur de Benaki, qui est lui-même non à Benaki. Je le connais quand même, ça fait depuis plusieurs années. J'ai même été un de ses élèves. Je suis un peu gêné parce que mon Abenaki, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pratiqué. Puis de parler avec mon professeur comme ça depuis... ça fait 4 ans, je pense, la dernière fois que j'ai pris un cours avec lui. Il va peut-être me chicaner un peu. Quoi?
J'espère.
Quoi, Philippe?
Quoi, Alexis? Comment ça va, Alexis?
Ah, ça va. Mais j'aimerais pouvoir te répondre en Abenaki.
Il sent coupable quand même.
Ouais. Hein?
Correct, on a encore du temps pour pratiquer.
Ouais. Ben, c'est ça. Toi, t'es professeur d'Abenaki, mais au départ, t'es un géographe.
Oui. En fait, j'ai un doctorat en géographie, puis c'est la vie un peu m'a amené à dériver un peu vers d'autres sphères d'études et d'enseignement.
Les langues autochtones, ça t'est venu, j'imagine, en étudiant la géographie, la toponymie du territoire.
En effet, c'est en plein ça le lien. C'est quand j'ai fait mes études en géographie, je me suis intéressé justement aux langues autochtones, en particulier l'Abenaki, parce que je viens un peu de cette région-là. Puis j'ai regardé, dans le fond, ce qu'il y avait déjà de fait pour les toponymes Abenaki.
Okay.
Puis mon doctorat, dans le fond, est sur la toponymie Abenakis au Québec. Là. Donc, c'est un peu ça le lien, effectivement.
Qu'est-ce qu'il y avait de fait, effectivement, pour essayer de comprendre ou avoir le vocabulaire?
En fait, pour la toponymie, il n'y avait pas grand-chose de fait. Il y avait la seule chose qui avait été faite, c'était un petit cahier qui avait été produit par la commission de toponymie dans les années 80. Et le cahier couvrait certains toponymes, mais ne couvrait pas tout. Donc, c'est ça qui m'avait poussé à travailler là-dessus. Il n'y avait pas grand-chose de fait. C'est un domaine inexploré.
Hey, on sort un peu du cadre de l'entrevue, mais moi, j'aime beaucoup la géographie, Philippe. Puis,
oui.
J'ai voyagé un peu dans les Pays de Galles, en Bretagne. Puis, j'étais vraiment comme étonné, puis favorablement étonné de voir qu'on n'avait pas peur d'avoir une toponymie bilingue, que ce soit en gallois et en anglais, que ce soit en breton et en français, pour que les langues celtiques de ces coins-là puissent continuer de vivre dans la toponymie, dans les affiches.
Mmh.
Est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui pourrait être faisable ici? On a, par exemple, la rivière, notre rivière aux Abenaki d'Odanak, l'Alsegontekouk, qu'on appelle la Saint-François en langage colonial. On pourrait peut-être penser à faire ça?
C'est sûr, mais ça, comme je dis toujours, la toponymie, c'est hautement politique. Les gens disent souvent, il y a un processus, mais dans une nuit, si vous avez déjà remarqué, il y a des toponymes qui apparaissent dans une nuit, puis personne ne dit rien. Il y en a qui apparaissent soudainement, on ne le sait pas. Donc, c'est des décisions qui sont politiques. Puis, il y a aussi le fait que si on veut afficher la toponymie, on a affaire à plusieurs ministères. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Là, je sais qu'Alexis va comprendre bien à ce niveau-là.
Quand oui, comprend vite
la machine, la machine bureaucratique pour changer du vocabulaire, on pourrait penser à l'état civil. Ça, c'est pour changer les noms des gens. Pour changer les noms des lieux, on n'aura pas juste à affaire avec l'état civil, on aura affaire avec un peu, si on peut dire, un ministère qu'on ne s'attendrait pas à avoir affaire. On aura affaire avec Transport Québec. Parce qu'il va falloir changer les panneaux. Donc, souvent, on va se dire, c'est pas compliqué. Oui, mais il faut aller changer tous les panneaux partout. Il faut que les panneaux soient conformes. Donc, c'est une procédure qui va être extrêmement longue. Mais c'est au départ, c'est politique. Mais ça peut rassurer un peu les gens, c'est que il y a déjà de la toponymie officielle abénakise qui existe dans le décor, puis aussi de la toponymie officielle dans d'autres langues autochtones. Là. Donc, qui est déjà officiellement dans le décor. Des fois, elle est écrite un peu au son et elle a été déformée par les forces coloniales.
Moi, je l'ai vu, Philippe, dans le Midwest américain l'année dernière où j'étais. Dans toutes les réserves, c'est dans la langue originelle.
Si c'est des choix qui sont faits, là, c'est toujours... C'est des gens qui décident. Dans quelle mesure ils peuvent décider, ça dépend où c'est quoi, mais c'est toujours possible. Si on passe à Odanak, la toponymie, en fait, même les panneaux de signalisation, beaucoup ont été changés, puis sont en train de le faire. C'est des décisions qui sont prises parce que les gens ont décidé ça. C'est ça qu'il faut se dire, c'est les gens décident.
Oui, ben c'est ça. À un certain moment donné, le conseil a décidé que nos buildings allait porter un nom à Benaki. Donc, puis là, ben, depuis ce temps-là, on a préservé cette façon de faire. Là.
Ben, je sais que les panneaux les noms de rue à Odanak, entre autres, en fait, je ne sais pas si ça a été fait là, mais sinon, ça ne sera pas longtemps. J'ai vu les nouveaux panneaux pour annoncer les rues qui ont été refaits avec une explication en dessous. Donc, c'est des décisions qui doivent être prises les gens, mais il y a un aspect technique aussi.
Est-ce que c'est envisageable en dehors des réserves, vous aussi?
Ben, ça dépend, comme j'ai dit, de Transport Québec.
C'est politique, quoi.
C'est politique, là. C'est des décisions qui sont prises dans des hautes sphères. Ça se rende jusqu'en bas, donc jusqu'au panneau. Donc, il y a des décisions à prendre en quelque part, mais là, je pourrais pas vous dire exactement qui décide dans la machine, mais c'est à plusieurs niveaux, là. De ce que j'ai su, c'est quand les gens ont essayé d'en faire changer, entre autres des Abenaki.
On sait pas qui décide, mais on sait qui décide pas.
Ouais, on peut dire ça comme ça, oui.
Mais Philippe, tu nous disais déjà que il y avait déjà de la toponymie à Benaki, ce qui était des fois au son. Est-ce que tu as des exemples comme ça à donner à nos auditeurs de...
Oui, il y en a plusieurs un peu partout au Québec. Justement, si on prenait le fameux Odanak, là, qui est dans le fond, qui est dans la toponymie officielle. Odanak, ça veut dire « au village ».
Ouais.
C'est un nom, un toponyme officiel en Abenaki qui est entériné officiellement, tout comme Wallinak, qui veut dire « à la baie ». Donc, c'est deux toponymes, les deux villages Abenaki au Québec ont des noms en Abenaki qui ont été finalement inscrits dans la toponymie officielle. Mais on pourrait passer aussi à Coaticook. Les gens ont souvent vu ça sur des pots de crème glacée. Coaticook, ça vient d'une rivière, ça veut dire, dans le fond, « à la rivière au pain ». Pas le pain blanc. Ben, en fait, oui, le pain blanc, mais pas celui qu'on mange de l'arbre. Là,
ouais.
Si
je me rappelle bien de mes cours avec toi ou avec Monique, c'est quoi qui est un pain, hein?
Quoi, c'est un pain. Quoi, ça serait des pains. Là,
ah, OK, ouais. Bon.
C'est la rivière au pain. On pourrait avoir le fameux Memphrey Magog, qui était Mamflobagak. Mamflobagak, ça serait comme... c'est un grand lac profond, c'est ça que ça veut dire. Puis on va avoir Magog, là, qui vient peut-être une troncation de Namagok, ou qui était emprunté à la Bible, parce que ça ressemblait à ça, on ne sait pas trop, là, mais il y a plusieurs, je peux en trouver d'autres, là, comme ça, des toponymes comme ça, qui sont dans le décor. Leur graphie moderne ne représente pas toujours ce qui était au départ, mais ils sont inspirés d'eux. Là. Donc, il y en a un peu partout, là.
Vous êtes membre de l'Office de la langue Abenaki. Qu'est-ce que ça fait, cet office-là?
En fait, c'est ce qu'on s'est créé comme... on s'était créé un organisme pour, s'occuper un peu de la langue. Parce que là, souvent, les gens ont aussi une mauvaise conception de l'état des langues autochtones. Puis je le dis toujours, si c'est moi qui enseigne, c'est parce que ça va mal. c'est triste à dire, mais... Je suis pas supposé être en dépositaire de ça, puis enseigner, puis être... Là, il y a deux profs d'Abenaki dans le monde, là, qui donnent des cours. C'est pas normal qu'il y en ait si peu, puis l'état un peu de la langue fait en sorte qu'il faut se défendre un peu face à l'envahisseur. C'est un peu comme dans Astérix, là, mais faut se défendre face à l'envahisseur. On avait créé ça pour... avoir un peu un... Souvent, il y a la modernité, ça frappe toutes les langues. Il faut développer du vocabulaire. Il faut penser à comment on oriente la langue exactement. Puis quand il y a des discussions par rapport à de la traduction, entre autres, c'est pour ça qu'on avait créé ça. Je vous dirais que ça fait longtemps que ça a été mis en veilleuse un peu parce que il y a eu, entre autres, la pandémie, puis il y a eu des changements, puis on va sûrement pouvoir le réactiver, mais le but, c'était un peu le même principe que pour les autres langues, c'était d'avoir un lieu de rencontre pour discuter de la langue.
Je veux qu'on revienne, Philippe, un peu à ton processus d'apprentissage. Donc, tu vois des mots en Abenaki en faisant tes études en géographie.
Ouais.
Là, tu as voulu comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Tu as sûrement fait des recherches dans des livres, des recherches documentaires, mais tu as voulu pousser encore plus loin cet apprentissage-là. Comment t'es venu cogner à la porte à Odanak à un moment donné, dire « Allô? Quoi?
» Ben, en fait, c'était dans un... j'étudiais à l'université, dans ce temps-là, j'étudiais à l'UQAM, puis je cherchais à... Je voulais apprendre des langues. C'est un peu une démarche intellectuelle. Là. Je cherchais à apprendre des langues. Je me suis dit, ben, je pouvais apprendre des cours d'espagnol, mais peut-être que ce serait intéressant d'apprendre les langues d'ici, parce que c'est un peu... le monde dans lequel on vit a déjà été pensé autrement, vu autrement, analysé autrement, puis c'est à travers les langues autochtones, les langues qui étaient là. Fait que je m'étais dit, je vais essayer d'apprendre une langue. Là, j'ai regardé pour Innu, j'ai regardé pour Mohawk, des langues qui étaient pas trop loin de chez nous, que je pensais, parce qu'il y avait beaucoup de locuteurs qui auraient peut-être des cours. J'en trouvais pas. Mm-hmm. J'ai cherché pour le cri aussi. Puis éventuellement, je trouvais rien, nulle part. Puis il y avait pas de cours nulle part. Donc j'ai dit, ben, je vais continuer à chercher. Puis éventuellement, j'ai dit, ben, je vais appeler au musée des Abénakis. Puis là, j'étais découragé parce que ça m'a pris au moins un an à trouver quelque part où il y aurait des cours. Il n'y avait pas l'Internet dans le temps. C'était moins facile. Puis j'ai contacté finalement le musée qui m'avait dit, oui, il y a des cours, c'est une madame, Monique Nolette-Hillé, qui donne des cours de langue que tu connais aussi.
Ben oui, moi, quand j'habitais à Odanak, quand j'étais jeune, c'est avec elle que j'ai suivi mes cours, enfin.
C'est ça. Fait que au début, ça c'est, on parle de la fin du siècle passé, là. J'étais dans le fond à la recherche de cours, puis on m'a dit oui, elle en donne. Puis je suis allé la rencontrer, puis ça m'a donné un peu la piqûre. C'était une bonne professeure, puis j'étais comme content parce que c'est comme, ben, je trouve pas nulle part rien. C'est ici, il y a quelque chose, puis ça m'a intéressé. Puis j'ai continué pendant des années. J'ai fini mes études, j'ai commencé à enseigner au cégep, j'enseigne la géographie. Et puis, éventuellement, je me suis amélioré, on peut dire ça comme ça.
Jusqu'à dépasser la maître?
Ah, ben, éventuellement, Monique a eu des ennuis de santé. Ouais. Elle a décidé de prendre sa retraite. Elle, c'était son emploi de retraité.
Oui, 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 c'est ça.
Puis, elle me dit, bon... ça me tente plus d'enseigner. Tu vas aller enseigner.
Oui. comment réagissent les Abénakis de voir que le professeur d'Abénaki n'est pas Abénaki?
Ben, en fait, les deux conseils de bande d'Odanak et de Wolinak me payent pour enseigner. Donc, s'ils n'étaient pas d'accord, probablement qu'ils m'auraient coupé, mais sinon, il n'y aurait pas de cours. C'est vraiment la raison pourquoi Monique m'a donné le cours, c'est qu'il n'y avait personne d'autre. Là. C'était pas... L'Abénaki est passé d'un état où, si on recule il y a 100 ans, tout le monde parlait Abénaki, puis il a commencé à ce moment-là à avoir les premiers Abénaki qui ne parlaient pas leur langue. Donc, on est passé de tout le monde parle à plus personne parle. C'est ça l'état. Donc, si j'en donne pas, il n'y en a pas de cours. C'est vraiment ça, parce que les gens, ben Monique a pris sa retraite. Les autres personnes qui sont assez bonnes, je pense à Daniel Nolette, il travaille à temps plein déjà, il n'a pas le temps de donner des cours, donc il n'y a pas vraiment d'autres gens. Si j'avais pas donné de cours ou si j'en donnais pas, il n'y en aurait probablement pas. C'est ça le malheur de la chose.
Si je reprends, juste pour exposer qu'est-ce que Philippe vient de dire, dans ma famille, la dernière personne à parler l'Abénaki, c'était mon arrière-grand-mère, Antoinette. C'est ça, on l'avait fortement incité à ne pas développer ses talents de sportive, c'était une grande sportive, et à ne pas enseigner l'Abénaki à ses enfants.
Non, ça explique un peu pas mal les différentes raisons, parce que souvent les gens pensent « Ah, les Abénakis ont arrêté de parler, ah, c'est à cause des pensionnats ». Très peu sont allés, oui, sont allés à l'école.
Mais en anglais, les anglophones, mais eux, les familles anglophones avaient plus tendance à garder l'Abénaki, ont gardé l'Abénaki plus longtemps, à ce que j'ai cru comprendre.
Ben, il y a ça, mais il y a le fait que, en fait, ce qu'ils disaient au début du 20e siècle, c'est que les Abénaki gardaient religieusement leur langue, c'est le terme employé. Puis plusieurs facteurs sont venus... se mettre en place pour que l'Abénaki disparaisse. Donc, des décisions individuelles, des gens qui veulent pas que leur famille parle, des gens qui sont partis ailleurs, sont partis aux États-Unis. Les pensionnats, c'est très peu. Ils sont allés à ce qu'on appelle l'école indienne de jour, là, qui était sur place. On pouvait pas parler en Abénaki dans l'école, alors qu'avant, l'école était en Abénaki. Fait que c'est un autre facteur. Mais... c'est pas à trancher au couteau. Là. Donc, il y a le fait aussi qu'il n'y a pas beaucoup de population. Danak, ça n'a jamais été très gros. Donc, ça n'a pas aidé non plus. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs qui viennent influencer ça. Donc,
comme on va aller à la musique, on va écouter un petit peu de musique. Pourriez-vous nous dire ça en Abenaki, qu'on va aller écouter de la musique un petit bout de temps?
Je ne saurais pas savoir de quoi la chanson, je ne pourrais pas l'annoncer, mais on va dire en fait, c'est tout nous, fait que là, il faudra tous s'inclure ensemble, on va dire Knondé, Kita, Mombuda, Lintowongan. On va dire ça comme ça.
Philippe, est-ce que l'Abenaki est une langue morte? Sûrement pas. On doit essayer d'avoir des mots modernes dans cette langue?
En fait, on peut pas vraiment dire qu'une langue est morte, parce que une langue morte, c'est ça, on n'aurait aucune trace de cette langue-là. Donc, on a beaucoup, beaucoup de traces de cette langue-là. On a encore des gens qui l'apprennent. La langue, évidemment, évolue. Toutes les langues évoluent pas de la même façon non plus. Donc, si on pense à la modernité, pour que des mots existent, il faut que les gens s'entendent sur les mots. Je pourrais prendre un exemple assez concret. Dans les années 30, Henry Lorne Masta, qui était un Abenaki, qui était en fait un enseignant d'Abenaki, là, c'était ça sa profession dans la vie, parce qu'il y avait, comme je l'ai dit, il y avait de l'école en Abenaki. Lui, à sa retraite, il a décidé de traduire le dictionnaire Larousse. Donc, il s'est attelé à la tâche. Évidemment, là-dedans, il y a plein de choses qui sont pas traditionnel aux Abenaki, des choses de type européen et de la modernité. Et évidemment, ben c'est tout le temps une question de choisir qu'est-ce qu'on va traduire comme modernité. Lui, ben en fait, ce qu'on peut observer, c'est souvent pour la modernité, soit on va faire un emprunt à une autre langue. Je pourrais prendre le cas, par exemple, d'un moteur. Lui, par exemple, Henry Lorne Masta s'est dit ben, un moteur, ben, il a pas ça en Abenaki, fait que lui, il a fait un emprunt, il a pris machine, qui vient de machine. Donc, il a fait un emprunt à ça. Les langues algonquiennes, même les langues autochtones font souvent ça. Donc, on va emprunter pour la modernité. Soit on va associer avec quelque chose qui existe déjà, pour dire que c'est la même affaire. Par exemple, je pourrais prendre Winos. Winos, c'est à la fois un oignon et c'est aussi un oignon sauvage traditionnel là, qui pousse dans la nature. Donc, on les associe ensemble parce que l'oignon moderne qu'on a dans les épiceries vient pas d'ici. Ou sinon, on pourrait faire une définition du mot ou en créer un. Donc, c'est les trois façons. Donc, tant qu'il y a des gens qui le font, ça va, la langue continue à évoluer. Mais le problème, c'est souvent, c'est si on se dit OK, ben là, ça va être ça, le mot pour ça. Il faut que tout le monde s'entende pour ça. De là que c'est plus dur, parce que l'Abenaki est une langue comme les autres langues algonquiennes. Il faut décrire, on décrit beaucoup les objets, comment ils sont. Puis là, la façon qu'on va décrire, c'est un peu notre perception du monde dans la langue. La langue perçoit comment certaines choses. Ben, il y en a qui vont le percevoir d'une certaine façon, il y en a qui vont le percevoir d'une autre façon. Ça sera pas la même, mais pour arriver à ça, il faut avoir un peu un consensus entre les gens.
Quand on définit comme ça un mot à partir de son utilisation, par exemple, je donne un exemple qui ne veut rien dire en soi, mais si on voulait dire le mot hache, ou si on dit le mot hache pour fendre du bois, on dit l'objet qui sert à fendre du bois, quelque chose comme ça?
Mais ça serait tomahawk. Tomahawk, ça serait comme un instrument qui coupe. Fait que oui, ça va être un peu ce principe-là. Ben, okay. C'est souvent ça que je mets l'exemple aux gens, comment vous pensez que ça va être interprété, puis les gens vont dire « Ah, c'est comme ça ». Souvent, c'est là l'idée de la conception du monde, puis de la pensée autochtone, de la pensée abénaki, c'est que la façon dont ça va être interprété, l'objet, comment on va le décrire, c'est souvent pas comment les gens pensent en français. Donc, les gens vont dire « Ah, je pense que ça va être ça ». Non, ça sera pas ça. Souvent, c'est pas la bonne interprétation, disons. Là. Mais c'est... L'idée est là, c'est souvent une description de ce type-là. Là. C'est comme, tu vas penser à une fraise, ben ça va être un petit kekwemen, ça serait un petit fruit comme une baie dans le gazon, le foin, la paille. Qui revient un peu en plus en anglais à strawberry, là, la baie de paille. Donc c'est un peu le même principe, puis des fois ça va dans d'autres domaines. Là. Donc des fois ça va décrire d'une façon qui ressemble comme on l'aurait pensé en français, puis des fois non. Donc c'est toujours différent.
Puis là, il y a s'entendre comment on traduit le mot, mais il y a aussi s'entendre comment on l'écrit, qui peut être un autre défi.
Il y a ça aussi. Ben oui, parce que en fait, ce qui est assez étrange, c'est que l'Abénaki a été écrit de différentes façons à travers le temps. Mais c'est surtout le fait qu'on a associé les lettres à des sons. C'est pas quelque chose qui a été décidé par exemple par une personne, puis la personne suivante qui va travailler sur la langue, que ce soit un jésuite ou que ce soit un Abénaki, parce que beaucoup d'Abénaki qui ont travaillé sur leur propre langue. C'est des décisions comme un peu, on va dire, personnelles, genre, ben moi, comme s'ils disaient, moi, je vais interpréter ce son-là en Abénaki par ces lettres-là. Parce qu'en français, même les lettres, si vous voulez regarder l'alphabet en français, regardez dans d'autres langues le même alphabet, les lettres ne sont pas toujours associées au même son. Donc, c'est un peu le même principe, c'est que des gens ont décidé d'écrire l'Abénaki, mais au final, si on apprend la façon qu'ils ont utilisé les lettres pour faire X son, les mots sont tous pareils pratiquement. Là. Donc, il n'y a pas vraiment... Ça peut être un problème pour quelqu'un qui ne connaît pas les différentes graphies employées, mais au final, c'est les mêmes mots. Mais c'est sûr que c'est un peu un problème qu'on tente de régler aussi, là, parce qu'il faut avoir un peu un repère. Les gens ont besoin de repères, donc on a besoin de régler ça aussi, mais c'est pas le plus grand problème, disons. Là. On a d'autres problèmes avant ça.
Les repères qu'on a des enregistrements d'Abénaki qui parlent l'Abénaki, est-ce qu'on en a retrouvé? Est-ce qu'ils sont assez nombreux pour se donner une bonne idée de comment le prononcer?
Oui. On a, en fait, il y a deux. On a retrouvé deux collections. Il y en a une, c'est Gordon Day, qui a travaillé dans les années 60, 70, 80 avec les Abénaki, qui a enregistré beaucoup d'Abénaki qui parlent, souvent ils disent des listes de mots, ils lisent des textes. Donc, on a plusieurs locuteurs là-dessus. Là. On a peut-être 30-40 personnes qui parlent là-dessus, plus une autre collection de Janet Warren qui a fait sa mémoire de maîtrise sur la phonologie Abénaki, qui a enregistré beaucoup. Donc, on a des exemples de prononciation de plusieurs personnes. Mais là, évidemment, il faut tout traiter ça. Dans le cadre, justement, dans le cadre d'un projet sur lequel je travaille avec mes collègues René Lemieux et Patricia Godbout, on appelle ça le projet Awikigani Saskak, c'est-à-dire comme une armoire à livres, donc une bibliothèque. On a un projet à l'Université de Sherbrooke en collaboration avec le conseil de bande d'Odanak, de Willinak, puis le grand conseil Wabanaki. On ramasse justement ces informations-là, là. Donc des informations autant orales qu'écrites sur la langue abénakise, parce que souvent, c'est ce que les gens disent, on veut entendre, c'est ça qu'on veut, bon ben, on va vous trouver l'information, on est en train de traiter justement cette information-là qui est, on va dire, orale,
Philippe,
pour que ça soit utilisable, parce que sinon c'est sur des bobines de différents formats, les gens ne peuvent pas entendre.
Je vais te dire, tu sais, si je le dis bien, parce que c'est la fin de notre entrevue, c'était vraiment très intéressant.
On va le dire en Abénaki.
Aléoné, merci d'avoir été avec nous. On se reprend.
Philippe Charlois.
Ça me fait plaisir.